La question m'était posée, pourquoi est-ce qu'on dort? Si on se met à la place de Dieu, Dieu crée le monde intelligemment, donc à sa place, moi j'aurais créé autrement. Pourquoi mettre un tiers de la vie active d'une personne dans un lit en train de ronfler? C'est pas productif. 100% de son potentiel. On me dirait, non, mais c'est normal, j'ai une machine, il faut qu'il y ait un peu de repos, etc. Je dis, pourquoi? Dieu peut tout faire. Dieu peut aussi créer un être humain qui n'a pas besoin de repos. Il nous met une batterie dans les reins, et toute la vie, on est comme ça, en pleine forme, toujours de la mort. Comme une batterie. Mais je savais qu'une batterie, elle veut des temps de repos. D'accord? Elle fonctionne, puis elle s'arrête, terminée, à la poubelle. Comme
le cœur.
Comme le cœur, très bien. Le cœur, il bat sans cesse. On a pas vu que le cœur voulait prendre du repos, c'est très grave. La réponse est la suivante. C'est-à-dire que la mort, le sommeil est une partie de la mort. C'est marqué 1/60 de la mort. C'est marqué aussi 1/60 de la prophétie. Et il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire que idéalement, l'être humain n'aurait pas dû dormir du tout. Le premier homme, avant le péché originel, était un être lumineux, voyait Dieu, complètement droit, complètement parfait, presque complètement parfait. Il avait quand même la possibilité de faire une erreur, il l'a faite. Mais il n'avait pas besoin de dormir, parce que c'est une fois qu'il mange du fruit interdit, de la connaissance du bien et du mal, que là, il baisse de niveau de façon extrêmement grande, il descend des millions de mondes, et il n'aura plus un corps de lumière, mais un corps de chair. Et ce corps de chair, pour arriver à réparer le péché du premier homme, c'est-à-dire passer de notre corps de chair à un corps de lumière, il faut mourir. Il faut que le corps de chair se décompose dans la tombe. Et là, enfin, on peut réintégrer la situation avant le péché originel, où on était de lumière. C'est ce que Dieu a dit au premier homme, le jour où tu mangeras du fruit de connaissance du bien et du mal, mot à mot, tu mourras. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence pour le but, c'est de te rapprocher de moi, de Dieu. Tu veux maintenant te rapprocher, si tu manges du fruit interdit, donc tu fais baisser ton niveau énormément, et te rapprocher sera possible qu'avec le tikkun, qu'après l'étape de la mort.
Alors tout a été recréé, comment le monde a été fait?
Le premier homme, il a une autre réalité, oui. Ça se peut que le monde restait le même. Il y avait la terre, la mer, les arbres. Mais Dieu a pris le premier homme, l'a mis dans le jardin d'Éden. C'est une autre réalité que ce que nous connaissons aujourd'hui. On est très loin du jardin d'Éden. Et là-bas, il y a un certain job à faire. Il n'a pas fait ce job. Alors, Dieu d'abord lui dit, quand tu as mangé du fruit de l'arbre, de connaissance du bien et du mal. Donc déjà, toutes les neshamot juives, elles descendent très très bas, elles donnent vie aux clipotes, à toutes les forces extérieures, le mal qu'il y a ici. Et deuxièmement, Dieu dit, raus, dehors, hors du jardin d'Éden. Donc on se retrouve ici. Lorsque l'époque messianique vient, nous rétablissons la situation qu'il y avait avant le péché originel, et on passe, 40 ans après la venue du Messie, on passe à ce qu'on appelle la résurrection des morts. Ça veut dire que quand le Messie vient, on n'est pas encore en état extraordinairement, on n'est pas encore en lumière, on est encore avec des corps de chair. Et 40 ans après la venue du Messie, commence un processus qui doit durer 114 ans, pendant lequel les êtres humains vont changer de corps entre un corps de peau, ils vont les changer en un corps de lumière. Comment ça se fait ce changement? Par la mort. Par la mort. On meurt. Le corps se décompose et hop, on revient dans un corps de lumière. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Et qui, durant les 114 ans, les premiers à faire cette opération sont les tzaddikim. Plus une personne sera pure, sera sainte, sera proche de Dieu, plus rapidement il aura le mérite de... Ouais, écoute, moi j'ai reçu, chacun recevra tout à coup de la lishka, le secrétariat du Mashiach, on recevra une lettre, voilà, préparez-vous, en 17 juin, vous changez de corps, d'accord? Chaque fois que quelqu'un recevra une chia, ouais, j'ai reçu mon... Ciao les enfants, On se reverra dans les corps. Voilà, ils regarderont dans lesquels des punaises qui travailleront encore pour se débarrasser de leurs envies bestiales et animales. Et là, qui sont là, dans le corps de lumière. Voilà, celui qui aura la chance.
Vous avez dit c'est 40 ans après la venue du Machiach que grosse poussière de 114 ans, ça.
Exactement.
Alors, il n'y aura plus ces envies bestiales. Vous dites que les autres, pendant que les sadikim.
Oui, bestiales. Il n'y aura plus d'envie bestiale animale qu'on a aujourd'hui, mais on aura encore. On sera pas, il y aura des niveaux de sainteté différents, c'est certain. Pour arriver à un niveau de sainteté.
On dit que je me retrouve à Shrida ou Yetzara.
Oui, c'est juste. Pulsion. C'est juste. Mais il y aura néanmoins des niveaux différents de sainteté. C'est pas que les gosses, les gens simples, ils vont aussi, ils auront la prophétie, mais c'est certain qu'on a des niveaux.
Donc il y aura une barbite aussi.
Pardon aussi. Oui, bien sûr qu'il y a des barbites, c'est certain.
Comment maintenant, comment ça s'articule les barbites? Si on n'a plus de penchant négatif,
il y aura encore un certain. Il y aura une différence. Est-ce que je fais maintenant la mitzvah avec plus d'amour de Dieu ou moins d'amour de Dieu? Il n'y aura pas un yetzera comme il y a aujourd'hui. Le mal existera encore, mais extérieur, un mal beaucoup plus atténué. Et on pourra plus ou moins avancer, se rapprocher de Dieu. C'est certain que le grand travail se fait maintenant. C'est le grand dégrossissage se fait maintenant. Mais après, dans la finesse, il y aura encore des étapes à faire, à franchir pour se rapprocher de Dieu. Pour te donner un exemple, à quel point nous sommes loin, d'accord, c'est marqué en mystique juive, en Kabbalah, hein, c'est marqué que les plus grands kabbalistes aujourd'hui, même du temps de Rabbeinu Ha'ari, donc celui qui écrit toute la Kabbalah, enfin son élève, Rabbi Chaim Vital, n'ont étudié que Chitsoniot de Chitsoniot, c'est-à-dire l'extériorité de l'extériorité des secrets de la Torah. Ça, c'est le degré le plus profond auquel on peut accéder aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle du dernier millénaire, ça s'appelle l'extériorité de l'extériorité. Après, tu peux rentrer dans l'intériorité de l'extériorité. Après, tu peux rentrer dans l'extériorité de l'intériorité, à la fin, dans l'intériorité de l'intériorité. Ça, c'est rien qu'au niveau de l'étude. Donc, ça veut dire que pour se rapprocher de Dieu, à passer à l'état d'âme, de corps de lumière, et encore un programme assez grand. C'est pas assez grand, parce que tu regardes, ça peut être quelqu'un aujourd'hui, il a 20 ans, Machar vient quand il a 21 ans, donc 40 ans, à l'âge de 60 ans, il peut déjà passer dans ce niveau-là, s'il bosse bien. Donc c'est possible. C'est pas non plus... c'est très très rapide, c'est une histoire de une ou deux générations, trois générations. Quoi qu'il en soit, hein, pour bien ce que nous parlions, donc l'homme est devenu un homme qui vit dans la matérialité, qui est proche de la mort, et lorsqu'il dort, il y a donc une partie de mort. Pourquoi ? C'est à voir avec cette partie aussi de prophétie. Ça veut dire que, idéalement, je ne goûte pas à la mort, je suis un être idéal comme le premier homme, de lumière, je n'ai pas besoin de dormir, je n'ai pas besoin de mourir, je suis dans la lumière. Et je suis en état de prophétie sans cesse, je suis en état de clairvoyance par rapport à Dieu. Je parle Dieu, Dieu me parle, comme le premier homme. Quand l'époque messianique viendra, alors la névoie, la prophétie reviendra aussi. Nous sommes très éloignés de cela. Mais nous sommes tellement éloignés, si on restait réveillé toute la journée, alors on ne pourrait pas résister, on ne pourrait pas survivre dans un monde qui est tellement mort comme ce monde-ci, parce qu'on serait beaucoup trop éloigné de notre source de vie. On a besoin d'un moment où le corps devient léthargique, l'emprise du corps, de la matière, devient beaucoup moins forte, et l'âme peut dans ce moment-là plus se dévoiler, plus se développer. Nous savons qu'un être humain, après des électroencéphalogrammes, on a mis ça sur la tête des personnes qui dormaient, alors il dort, et tout d'un coup on voit, dans l'électroencéphalogramme, on voit quand il y a une excitation, c'est cérébral, un travail cérébral. On voit quand il rêve. Alors, quand il dort et il rêve pas, on laisse dormir. Et quand il se met à rêver, on le réveille. On l'empêche de dormir. On a fait ça avec des chats. Au bout de 3-4 jours, les chats devenaient fous. Après 5-6 jours, ils mouraient. Alors que du point de vue physique, ils sont gavés de repos. Donc l'essentiel du sommeil, c'est pas le repos. L'essentiel du sommeil, c'est permettre le rêve. Le rêve en hébreu s'appelle chalom. Chalom, ça vient de la racine le'achlim. Le'achlim signifie guérir. Guérir. Pourquoi guérir ? Je vis tellement tordu, je vis tellement pas en adéquation avec ma neshama, avec Dieu. Je vis dans un monde qui est tellement loin de Dieu, qu'il y a des certains moments où il faut que le corps, l'emprise du corps, mensongère, matérialiste, éloigné de Dieu, s'arrête. Et là, pendant ce temps-là, je veux commencer à mettre sur place une relation beaucoup plus solide, avec Dieu. Ça s'appelle le rêve. Pour cela que c'est la 60e de la prophétie. C'est-à-dire, je suis en relation avec Dieu. Ce n'est pas une prophétie, loin de cela. Prophétie signifie relation avec Dieu. C'est quoi un prophète? C'est un être à qui Dieu s'adresse et qui s'adresse à Dieu. Quand on rêve, on est en relation minime. Un 60e, ce n'est pas grand-chose. Mais je suis, il y a au moins un petit filament de proximité de Dieu. C'est comme la mort. Ou la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est un moment où le corps devient, se décompose quelque part, et l'âme peut le quitter, se rapprocher de Dieu. N'est-ce pas? On a vu que la mort, c'est le tikkun du premier homme. C'est donc, c'est ce qui permet de se rapprocher de Dieu. Le sommeil aussi, c'est en attendant ta vraie mort qui te permettra un rapprochement total et définitif de Dieu, qu'il y a une petite mort quotidienne qui te permet de te rapprocher de Dieu un tant soit peu. Sinon, tu deviens fou. Sinon, tu perds la... Ça veut dire qu'au niveau physique, ton corps, il est gavé de sommeil, comme j'ai dit, mais il n'est pas en relation avec les sources d'énergie divine, donc il devient fou. Il devient fou et il meurt pour finir. C'est pour ça que nous verrons que les grands tzadikim dorment très peu. Les Gaon de Vilna, on sait, les Gaon de Vilna, il étudiait 5h30, dormait une demi-heure. Étudiait 5h30, dormait une demi-heure, 2h par jour. Et son élève a témoigné, le rabbi Chaim de Volozhin, il a écrit cela dans l'introduction au Sifra de Sinuta. Sifra de Sinuta, c'est un grand livre de Kabbalah, que personnellement je n'ai pas à la maison, à propos duquel le Gaon de Vilna a fait un commentaire. Maintenant, dans les éditions de Nefesh HaChaim, il y a là-bas l'introduction du Rabbi Chaim de Volozhin, l'élève du Gaon de Vilna, sur le pérouge, sur le commentaire du Gaon de Vilna sur Sifra de Tzinyuta. Donc, sans qu'on ait Sifra de Tzinyuta ni le commentaire, il y a l'introduction du Rabbi Chaim de Volozhin sur ce commentaire. Et là-bas, il parle un peu du Gaon de Vilna. Et il dit que le Gaon de Vilna, donc, il est fini 5h30 et dormait une demi-heure, et que chaque fois qu'il dormait cette demi-heure, il partait dans Metivta de Rekia. Mais Tivta de Rekia, c'est Yeshiva du ciel. Mais Tivta, Yeshiva, Rekia, c'est le ciel. Dans le ciel, figurez-vous qu'il y a des Yeshivot. Yeshiva de Rabbi Shimon Dorber, Yeshiva de Bar Yochai, Yeshiva de Rachid, Yeshiva du Rambam, d'accord? Alors, le Gaon de Vilna, il allait, zip, et il étudiait la Torah là-bas une demi-heure et revenait ici. Donc, on parle de gens qui sont d'un niveau. On parle en Inde, on parle de voyage astral. Alors, je ne sais pas ceux qui vont voyager où ils partent. Ils partent dans la sphère basse, ici dans ce monde-là. Ceux qui sont capables, les grands tzadikim d'Am Israël, ils partent très très haut. Ils vont carrément étudier la Torah là-haut. Le Or HaHaim HaKadosh, dans le parashat de Bechukotai, il ramène 42 commentaires sur le premier verset de Bechukotai. Im Bechukotai Telechu. Si vous allez dans mes voies. Rachidi Chazal on dit, ça veut dire quoi si vous êtes dans mes voies? Imatem Amelim Batorah. C'est si vous peinez en étude de Torah. D'accord? Toutes les brachot, toutes les bénédictions qui viennent, au contraire, si on ne peine pas dans la Torah, alors toutes les bénédictions qui peuvent venir. Et il a donné 42 explications à ce verset-là, basé sur le verset Vidibar Tabam. Vous parlerez bam, bam de ces paroles-là. Bam, en valeur numérique, ça vaut 42. Donc il a expliqué 42 explications sur ce verset. Un autre rabbin contemporain du Or HaHaim HaKadosh là-bas au Maroc, il a su simultanément. Et il a donné ces explications-là à la synagogue à laquelle il donnait son commentaire du Shabbat. Il a dit, sachez maintenant que dans Metivta de Rekia, dans l'Eshiva du ciel, on est en train d'enseigner maintenant ces 42 versets au nom de ces 42 explications au nom du Or HaHaim HaKadosh. Donc il y a des gens qui sont connectés avec le Metivta de Rekia, avec la Yeshiva du ciel. Ça existe, ce genre de choses-là. Pas pour le commun des mentales comme nous, mais ça peut exister. Quelqu'un qui est très proche de Dieu a besoin de moins de sommeil. Il ne faut pas commencer à s'amuser maintenant, se dire je suis proche de Dieu et pas dormir. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut dormir normalement. Mais déjà, Dieu t'empêchera de dormir. Si déjà tu es au niveau, il t'empêchera de dormir. L'histoire est très connue sur le Rav Chanan Wasserman. C'était l'élève du Chafetz Chaim. Il avait une chavruta avec le Rav Yochanan Spector, qui était un grand Chachamim aussi de Ashkenaz. Et tous les matins, il commençait à 6h. Le Chavruta, 6h du matin, jusqu'à minuit. Et chaque fois que le Rav Yochanan Spector venait à la Chavruta 6h du matin, il voit déjà le Rav Chanan Wasserman qui était présent. Alors il s'est dit, moi je vais pour demain, je vais venir avant lui. Alors il vient à 6h moins quart. Et il voit que le Rav Chanan Wasserman est déjà là. Bon, le demain matin, il s'est dit, bon, il vient encore plus tôt. Il vient à 5h30. Après 5h15, après 5h, chaque fois il vient, il voit que le Rav Chanan Wasserman est déjà là. Je crois, je suppose qu'il est arrivé jusqu'à 3h, 2h30 du matin, tout ça. Enfin, il lui a dit, mais je ne comprends pas, moi je viens toujours plus tôt que vous, je suis toujours avant moi. Alors comment vous faites? Alors, Wasserman a souri, il dit bien, ne perdons pas de temps, ils ont commencé à étudier. Alors, il y a des gens qui dorment peu. C'est marqué à propos de Yaakov Avinu, qu'après 14 ans qu'il était dans la Yeshiva de Shemvever, alors il a mis une pierre et il a posé sa tête dessus, il a couché. Il a couché sur une pierre, et il a rêvé, c'est cette vue prophétique où il voyait les échelles qui montaient dans le ciel avec les anges qui montaient et qui descendaient. Vous voyez, c'est marqué là-bas qu'il a dormi à Laïla Ahou, cette nuit-là. Nous avons dit cette nuit-là, il a dormi, mais pas 14 ans. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'a pas dormi 14 ans, parce que ce n'est pas humain. Bien que Yaakov Avinu a été vraiment une personne extrêmement grande, alors c'est marqué, c'est pas qu'il a pas dormi, Shachav c'est couché. Il dormait, mais dormait assis. Beaucoup de tzadikim jusqu'à notre génération, et j'ai dit Chachamim, ne dorment pas couché. Ils dorment assis sur la chaise, comme ça, quelques bonnes heures, ou pas beaucoup de bonnes heures, et ben, pourquoi prendre le temps de mettre un pyjama rentré dans un matelas? Vas-y, te lever du matelas, t'essayes une fois, c'est infernal, d'accord, c'est l'enfer. Comme t'as un plaisir fantastique de rentrer dans le matelas le soir, t'as un enfer terrible de sortir du matelas le matin. Donc, pourquoi avoir tout cela, à quoi ça sert? Et l'envie, c'est le plaisir que t'as, c'est relamazé, et le souffrance, c'est à quoi ça sert? Donc, ils dorment comme ça. Et le rave, Yoel Teitelbaum, c'était le rave de Satmer, a fait une opération. Et trois semaines après l'opération, une réunion de tous les grands rabbanim en Amérique, à laquelle, à cette réunion, le rav de Satmer est venu aussi. Et le voisin, qui était un grand rav aussi, dans la chambre, il y avait une chambre d'hôtel et l'autre chambre d'hôtel. Alors son voisin, il y a la femme de ménage qui rentre là-bas. Tu rentres là-bas dans la chambre du rave. Elle dit, est-ce que je fais le lit de votre chambre? Vous avez besoin que je fasse le lit? Enfin oui, pourquoi pas. Non, je sais pas, parce que le voisin, votre voisin, là, il demandait qu'on fasse pas le lit, il dort pas dans le lit. Alors le rave a su que le voisin, c'est le rave de Satmar, trois semaines pour l'opération déjà, il dormait pas dans son lit. D'accord, on dort pas dans son lit. Celui qui avait des photos du rave de Satmar, c'est un ange. Sur la photo, c'est un ange. En vrai, je sais pas ce que ça devait être. Un séraphin, d'accord, un chérubin, je sais pas ce que c'était, d'accord, c'est quelque chose de très, c'était un homme extraordinaire. Donc effectivement, encore une fois, ces choses-là ne nous concernent pas. C'est simplement pour mettre en évidence, pour répondre à ta question, Daniel, que le sommeil, il sert essentiellement pour les gens tordus comme nous à se remettre en réajuster le coup avec Dieu. C'est pour cela que nous sommes fatigués quand on vit loin de Dieu. Alors ça provoque une fatigue spirituelle, parce que la source de vie est éloignée de nous, donc on ne peut pas. Alors on se réénergise à la source de vie, parce que notre âme part, elle va dans la malchoute de Dieu, et là-bas elle se renouvelle, elle revient en pleine forme.
C'est-à-dire que plus on va se lier avec la Torah et on va se rapprocher de Dieu, moins on aura besoin de sommeil,
oui,
normalement.
Mais je te parle de degrés qui ne nous concernent pas forcément, je parle de très hauts degrés.
Une façon de se tester un petit peu pour savoir si on avance dans la Avodat Hashem, c'est...
Non, ça ne nous concerne pas. Pour les 40 ans à venir, tu peux être tranquille. Après, tu viendras me voir, on verra.